Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Cette émission a été enregistrée le jeudi 11 juin. Nous recevons ce midi Stéphane Lhomme, animateur de l'Observatoire du Nucléaire, ancien porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire et membre de l'association Arrêt du Nucléaire. Dans sa carte de visite, on peut ajouter qu'il organise à ce jour le refus des compteurs Linky par les municipalités et par les citoyens. Nous allons aborder avec lui la place de Nicole Aylot dans le gouvernement, logement investi par Areva et EDF. Mais avant cela, les billets de nos contestataires. Georges, c'est à toi.
Merci. Chères auditrices et auditeurs, voici les nouvelles d'Itate, la ville proche de Fukushima. Et ces nouvelles sont d'après un article de David McNeil et Chi Matsumoto du Japan Times. L'objectif, ce sont les ordres d'évacuation qui ont été levés dans la majeure partie du village d'Itate et dans ce village où sont donc les villageois. Itate, c'est un chapelet d'une vingtaine de hameaux minuscules disséminés sur plus de 230 km², un territoire réduit à néant suite à un caprice de la météo dans les jours qui suivirent la catastrophe nucléaire en mars 2011. Le vent s'était chargé en particules radioactives en provenance de la centrale nucléaire de Fukushima, à 45 km de là, que la pluie et la neige rabattirent au sol dans la nuit du 15 mars 2011. En effet, aujourd'hui, le gouvernement prétend qu'on ne court aucun risque à retourner à Itate. Et c'est en liesse que fut réouvert le 31 mars dernier l'ensemble du village, exception faite de Nagatoro, dans le sud d'Itate, toujours extrêmement contaminé. Cette réouverture correspond à un engagement pris par son maire, Norio Kano, qui annonça dès 2012 par anticipation une date de levée de l'ordre d'évacuation. Son maire promet alors de revitaliser le village avant 5 ans. Village qui dispose désormais d'un terrain de sport neuf, d'une épicerie et d'un restaurant de nouilles udon. Un dispensaire peut y recevoir des patients deux fois par semaine. Il n'y manque rien, si ce n'est les gens, les auteurs de l'article, David McNeil, Ichi et Matsumoto découvrent un livre en exposition à la réception de la mairie. Ce livre, Les plus beaux villages du Japon, dans ce livre, en 12e position, voilà Itate, une délicieuse mosaïque ondoyante de forêts, collines et prairies administrée par le maire depuis plus de deux décennies. 6300 résidents, un village réputé pour ses cultures potagères en terrasses et ses rizières, soigneusement délimitées. Pour ses cultivateurs biologiques industrieux, ses champignons sauvages et ses bœufs wagyu à robe noire, dont le nom provient de la région. Mais le spectacle qui s'offre à eux en dehors dément cette description idyllique. Les prairies sont quasiment nues. On a rasé la végétation dans une entreprise prométhéenne de décontamination de la radioactivité qui s'est déposée voilà 6 années. Pas une vache, pas un fermier à l'horizon, des tracteurs stationnent silencieux dans les champs. Les écoles du village sont désertes. Quant à la population, le seul endroit du village qui semble animé, c'est la maison de retraite, située de l'autre côté de la rue, en face du bureau de Kano. Une petite centaine de gens, assez âgés ou retraités, sont de retour. Un fermier local, Ito, se demande si à eux seuls ils pourront faire renaître le village. Notre village ne sera plus jamais celui d'avant la catastrophe, mais il peut se développer d'une autre façon. La reconstruction est en marche, déclare le maire. Kano, cet attachement au Furusato, le pays natal, est particulièrement prégnant au Japon, nous explique Tom Gill, un anthropologue britannique qui a beaucoup écrit sur Itate. Enfin, toujours à Itate, le coût de la décontamination s'élève à plus de 1 600 000 euros, soit 200 millions de yens par foyer. Ces travaux et l'effet du temps ont rapidement fait baisser la radioactivité au-dessous de 20 millisieverts par an en beaucoup d'endroits. Cependant, toujours selon le maire, ces travaux ne vont pas au-delà d'une distance de 20 mètres des maisons et les trois quarts du village consistent en massifs forestiers. Donc, par temps venteux, les particules radioactives se redéposent dans les champs et sur les maisons. et notre fermier de dire « tant d'argent, pourquoi ?» Il s'agit bien d'un fermier critique à l'égard du maire. Enfin, il faut savoir que beaucoup d'anciens habitants d'Itaté se sont solidarisés à travers des procès intentés au gouvernement.
Merci Georges pour ce billet, ces nouvelles de Fukushima. Eh bien, le second billet, c'est moi qui m'y colle et c'est une bonne nouvelle puisque les graves infractions et négligences commises entre 2012 et 2014 à l'usine Areva NP de Romans sur Isère sont enfin condamnées en justice par la cour d'appel de Grenoble. Alors, trois associations étaient à l'initiative de cette plainte. Pour la Drôme, il y avait Stop Nucléaire 2607, nous-mêmes donc, et la FRAPNA et nationalement, le réseau Sortir du Nucléaire. Alors revenons sur les événements. Depuis 2012, l'usine Areva NP de Romans-sur-Isère, anciennement FBFC, a été le théâtre d'une série de dangereuses négligences révélatrices d'un véritable mépris pour la sûreté. Des négligences qui mettaient en danger les travailleurs et les riverains, dixit l'autorité de sûreté nucléaire ASN. L'usine Areva NP de Romans-sur-Isère, filiale d'Areva, connue jusqu'à fin 2014 sous le nom de FBFC donc, fabrique des barres de combustible nucléaire utilisées dans les réacteurs. En septembre 2012, des contrôles réalisés par l'ASN ont démontré que l'usine, au mépris des règles de sûreté les plus élémentaires, entreposait parfois ensemble des bouteillons, des bouteilles de sécurité, contenant des matières fissibles, sèches et humides. Or, ces dernières doivent faire l'objet de précautions supplémentaires, car elles sont plus promptes à déclencher une réaction en chaîne incontrôlée. Nous avons tous en tête la catastrophe qui a eu lieu à l'usine AZF de Toulouse, détruite le 21 septembre 2001 par l'explosion d'un stock de nitrate. Le mélange accidentel de produits chimiques dans un même lieu en était la cause. On voit bien donc le danger qu'il y avait à Areva. La manipulation négligente des matières radioactives a déjà déclenché des accidents de criticité dans cette installation nucléaire, provoquant des irradiations importantes chez de nombreux travailleurs, voire leur décès. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN donc, a classé les problèmes relevés à la FBFC au niveau 2 de l'échelle INES, preuve de la gravité des infractions constatées. Pourtant, il n'y a eu aucune poursuite. Le réseau Sortir du Nucléaire avait déjà porté plainte en février 2013 contre la FBFC. Malgré l'ampleur des infractions constatées, cette plainte fut classée sans suite, le parquet se contentant d'un rappel à la loi. Depuis, la FBFC a multiplié les négligences malgré plusieurs mises en demeure et mises sous surveillance renforcée de la part de l'ASN, révélant la gestion défectueuse des matières radioactives sur ce site. En décembre 2014, le réseau Sortir du Nucléaire avait alors déposé une citation directe devant le tribunal correctionnel de Valence à l'encontre d'Areva et de la FBFC, ainsi que de l'ancien et de l'actuel directeur du site pour l'ensemble des infractions commises depuis 2012. La FRAPNA, Drôme Nature et Environnement et Stop Nucléaire s'étaient donc portés partie civile. Suite à l'audience qui avait eu lieu le 28 janvier 2016, donc il y a un peu plus d'un an, le tribunal correctionnel de Valence avait décidé de relaxer Areva et les deux directeurs de toute infraction reprochée, prétextant qu'Areva ne pouvait être tenu pour responsable des fautes commises par une filiale qui n'existait plus en tant que personne morale. Considérant que la disparition de la personne morale FBFC ne faisait pas disparaître la responsabilité des directeurs successifs, les mêmes associations ont donc fait appel. Le petit jeu des modifications de propriétaire sauve encore une fois Areva d'une condamnation, puisque la cour d'appel s'est refusée de voir le lien entre la FBFC, filiale à 100% d'Areva, qui n'existe plus juridiquement depuis le 31 décembre 2014, et la maison mère, Areva, nouvelle détentrice de l'usine de Romans-sur-Isère. Toutefois, et c'est là que c'est important, la cour d'appel de Grenoble, le 15 mai 2007 donc, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valence et a reconnu que les fautes avaient été commises dans la gestion de l'usine FBFC en septembre 2012. L'ancien directeur du site est donc condamné à verser 15 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 9 000 euros au titre des frais de justice. Dans un communiqué, les associations, dont Stop Nucléaire 2607, se réjouissent de cette condamnation, mais regrettent cependant que par le jeu de fusion-absorption avec sa filiale FBFC, Areva n'ait pas été déclaré responsable directement. À l'heure où notre nouveau Premier ministre est un ancien directeur des affaires publiques d'Areva, notre vigilance doit donc redoubler face au poids du lobby nucléaire et nous suivrons toujours cette usine FBFC. Et maintenant, à la chanson.
À toi la petite écolière de Fukushima, ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petit écolier de Fukushima, tu n'as que 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petit écolier de Fukushima, ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petit écolier de Fukushima, tu n'as que 12 ans. Tu la manges, tu la respires, mais jamais ne la vois. La radioactivité de ton jeune corps, tous les jours croît. Voici les coupables, on les montre du doigt. Mais sur ton avenir, t'as déjà fait une croix. Jamais mes amis et moi, on ne pardonnera. Jamais celui qui a les yeux ouverts n'oubliera. Pour des siècles, ils ont répondu.
leur poison chez toi. Comme des criminels de guerre, on les jugera. À toi la petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima, tu n'as que 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petite écolière de Fukushima, ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima, tu n'as que 12 ans. On ne demande rien de plus que n'importe quel gamin. Aller à l'école et jouer avec ses copains. Dans la terre, dans les bois, dans la rivière et les chemins. Embrasser ses parents, goûter avec un bout de pain. Ils ont réveillé le dragon juste pour l'appât du gain. Les savants fous et la mafia, tout ça main dans la main. On sait pourtant bien que sans conscience, la science n'est rien. Que l'énergie nucléaire apporte la peur et le chagrin. Comme de gros nuages noirs, comme une histoire sans fin. Tu vis dans un cauchemar sans réveil, sans matin. Et personne ne viendra, personne ne te sauvera. Pour toujours, on oubliera la princesse qui était en toi. Et tu n'attends plus rien, ni des médias, ni de l'État. Tu es seul et tu vas mourir ici comme une paria. À toi la petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima, tu n'as que 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petite écolière de Fukushima, ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima, je préférerais oublier, mais je pense à toi.
Eh bien, sur cette superbe chanson, nous allons reprendre Stéphane Lhomme. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Absolument.
Bonjour. Bon, j'ai décliné un peu votre carte de visite tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler que vous êtes un des animateurs de l'Observatoire du nucléaire, même un créateur de l'Observatoire, et puis engagé ces derniers temps beaucoup sur les luttes contre l'INKI et la révolte des mairies ou de certaines mairies contre le l'INKI. Mais là, on n'est pas là avec vous pour parler de l'INKI, mais de ce nouveau gouvernement avec un Premier ministre ex-Areva et un ministre de l'environnement, chargé en tout cas de l'environnement, Nicolas Hulot. Alors, première question pour vous. Beaucoup d'antinucléaires ont accueilli l'arrivée de Nicolas Hulot dans le gouvernement avec, sinon bienveillance, au moins désespoir. Un gouvernement en France, ce n'est pas seulement un ministre, malheureusement, mais c'est aussi une ligne politique et surtout deux pouvoirs, le président et le Premier ministre. Alors, si M. Macron et M. Édouard Philippe sont-ils susceptibles d'être inspirés par Nicolas Hulot, d'après vous ?
Bah écoutez, on peut toujours mettre une petite pièce dessus en se disant, on ne sait jamais, le miracle va se produire, mais je pense qu'il faut voir ça avec l'expérience. Et on a bien vu que, de toute façon, le pouvoir, c'est le pouvoir, et que Nicolas Hulot, tout célèbre qu'il est avec ses émissions de télévision, eh bien, il n'est que ministre, et que le vrai pouvoir, évidemment, il est à l'Élysée. Un peu à Matignon, donc chez ce représentant d'Areva qui a investi le poste de Premier ministre. Donc voilà, et puis les positions politiques, en particulier de M. Macron sur la question du nucléaire, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Donc,
est-ce qu'on peut rappeler un peu les positions de Macron, justement ? On avait invité son représentant dans notre émission il y a quelques temps, c'était pas très très clair. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les positions de M. Macron lors de sa campagne sur le nucléaire ?
Alors bon, lors de sa campagne, il a été ambigu à peu près sur tout, donc l'essentiel était de capter le plus possible de voix, donc il n'a pas forcément mis sur la table tout ce qu'il pensait, mais ça on l'a vu lorsque il était ministre de l'économie, où il a, par plusieurs décisions, contribué à renflouer partiellement l'industrie nucléaire, comme par exemple le fait de faire racheter par l'État 27 millions d'actions d'Areva au-dessus de leur prix réel, de manière à bien tout simplement à essayer de combler en partie le trou d'Areva qui restait énorme, hein, mais voilà, c'est ce genre de choses qui a été faite, et il ne se gêne pas donc pour ou du moins lorsqu'il était ministre de l'économie, pour prendre des décisions pour relancer l'industrie nucléaire, essayer de la sauver. Il faut savoir quand même qu'elle est moribonde. Monsieur Macron est tout sauf un anti-nucléaire, c'est une évidence absolue.
Ouais, alors, il y avait un article dans Le Monde hier de Monsieur Le Hire, journaliste du Monde, qui était assez intéressant parce qu'il disait que, en fait, aujourd'hui, ce gouvernement-là, et peut-être le suivant dans 5 ans, mais c'est vraiment très limite, sont confrontés à une situation tout à fait particulière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est le moment de faire des choix. Est-ce qu'on prolonge le nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête ? Or, Monsieur Macron est plutôt sur la ligne politique qui était celle de Hollande auparavant, c'est-à-dire on arrête un ou deux réacteurs, on baisse progressivement, mais aucune décision fondamentale risque d'être prise.
Oui, effectivement. Donc là, on a des annonces qui sont effectivement assez comparables à celles de M. Hollande. C'est on va baisser la part du nucléaire dans l'électricité française, alors de 75 à 50%, mais d'ici 2025. Alors, on entend dire que bon, on verra aussi pour l'échéance, parce que c'est peut-être pas si facile, donc peut-être 2030, etc. Mais de toute façon, ce sont des belles paroles qui ne peuvent pas se concrétiser. Lorsqu'on veut vraiment agir, on commence à, par exemple, en l'occurrence, s'il s'agit de faire baisser la part du nucléaire, on commence par fermer des centrales. On a bien vu que M. Hollande a tenu 5 ans avec Fessenheim pour finalement ne pas la fermer. Et M. Macron n'est évidemment absolument pas pressé de fermer le moindre réacteur nucléaire. Donc finalement, il n'y a aucune décision politique, aucun courage politique sur cette affaire, mais une fois de plus, c'est pas le courage politique qui va trancher, c'est les faits, la réalité, j'allais dire matérielle de ce parc nucléaire et la réalité financière d'EDF. Parce que on peut, comme je le disais, donc renflouer Areva par-ci, par-là, renflouer EDF avec différentes façons, en augmentant les prix de l'électricité, en vendant les joyaux du service public, hein, par exemple une partie du réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF. Ça peut toujours faire rentrer de l'argent, mais ça ne sauve pas la situation globale, qui est que l'industrie nucléaire française est en faillite, et donc il n'y aura pas de toute façon l'argent pour rénover les réacteurs nucléaires. Il n'y a pas d'argent évidemment pour construire de nouveaux réacteurs. Alors on parle ces derniers temps d'un projet de 30 à 40 EPR, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà entendu dire il y a 15 et il y a 20 ans. Au moment du lancement de l'EPR, avant même que les chantiers ne soient lancés, les chantiers de Finlande et de Flamanville, hein, qui sont des chantiers catastrophiques qui durent plus de 10 ans, alors que le réacteur devait être construit en 4 ans et demi.
Et dont les prix ont été multipliés par 3 ou 4.
Voilà, et le coût, alors on a toujours les mêmes justifications, du genre c'est vrai que ça s'est pas bien passé, mais bon, c'était des têtes de série, donc maintenant on a bien compris les problèmes, et donc vous allez voir, quand on va faire les suivants, ça va se passer beaucoup mieux, ça sera beaucoup moins cher, il y aura l'effet de série, etc., etc. Sauf qu'au fur et à mesure, la situation des premiers chantiers est de plus en plus complexe, que ce soit en Finlande ou à Flamanville. Donc, alors il est question de fabriquer un EPR NM, nouveau modèle, qui serait simplifié. Il ne faut pas oublier non plus qu'entre-temps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, Areva avait lancé avec le japonais, je pense que c'était Mitsubishi, un autre réacteur, l'Atmea, qui devait être une sorte d'EPR simplifié. Aussi, et donc bon, il n'existe que dans les cartons, hein, sur le papier.
Donc, on a toujours
le même genre d'annonce.
Donc globalement, pas de perspective de nouvelle, autre le fait que faut pas compter sur Macron pour changer la politique nucléaire de la France, si on comprend bien. Est-ce que Édouard Philippe, lui, pourrait être le Premier ministre qui ferait qui aurait une politique nouvelle ? Rappelez-nous un peu son curriculum vitae.
Oh ben c'est un cadre d'Areva, donc on a à juste titre raillé la prétendue indépendance du Niger, par exemple, qui est supposé être indépendant depuis 1960, indépendant de la France, c'est une colonie française, et le président du Niger est un ancien cadre d'Areva. Eh bien, peut dire que la France joue à peu près dans la même catégorie, puisque le Premier ministre de la France est un cadre d'Areva. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, plus cette industrie nucléaire semble être en déconfiture la plus totale, et plus elle semble carrément ne même plus être dans le jeu d'influence, mais carrément se positionner, prendre les places. On a le Premier ministre français qui vient directement d'Areva. Mais à nouveau, bon, c'est sûr qu'il fera tout le nécessaire pour protéger cette industrie nucléaire, mais pas plus que Macron, ils n'ont de baguette magique. Et à nouveau, ces gens-là ne peuvent pas, malgré tout leur amour pour l'atome, ne peuvent pas sauver une industrie qui est moribonde, qui est en faillite, dont les projets sont catastrophiques, les chantiers EPR, etc. Donc, à nouveau, c'est pas le courage politique, ni pour ni contre le nucléaire qui va changer les choses, c'est la réalité. La réalité, c'est que ce parc nucléaire est en voie de désagrégation, on va dire, qu'il est impossible de le rénover du moins entièrement, qu'il est impossible de fabriquer de nouveaux réacteurs. Donc on peut dire que dans les 10-15 ans qui viennent, très certainement de nombreux réacteurs nucléaires vont fermer en France par le principe de réalité, parce que tout simplement EDF ne pourra pas faire autrement. Et d'ailleurs, financièrement, c'est possible que ça ne soit pas une mauvaise opération pour EDF, puisque d'ailleurs ça avait déjà été mis sur la table au moment où il était plus ou moins question de fermer Fessenheim, puisqu'il était question que l'État dédommage EDF. Et certains avaient fait des calculs en disant, mais attendez, non, la fermeture de réacteurs va permettre de faire un petit peu remonter les prix de gros de l'électricité en Europe, qui se sont effondrés, hein. Et donc finalement, ça permettrait à EDF de gagner un peu d'argent. Et donc, à la limite, c'est presque EDF qui devrait remercier, voire dédommager l'État pour des fermetures de réacteurs. Donc on dirige vers ça par le principe de réalité, parce que EDF ne pourra pas financer la rénovation des réacteurs actuels, ni encore moins construire de nouveaux réacteurs.
On va redévelopper ça en deuxième partie après la chanson, mais là pendant la petite minute qui nous reste, on peut se dire que ça va être le principe de réalité, mais il y a quand même un problème, parce que si un gouvernement ne gère, si on attend qu'en gros ce soit uniquement les effets économiques qui fassent bouger les choses sans qu'un gouvernement prévoit, on risque quand même de se trouver dans les années à venir avec une sorte de situation assez incohérente où on ne développerait pas les énergies renouvelables, on mettrait pas l'argent nécessaire et en même temps le nucléaire s'éteindrait de fait économiquement, donc avec de vrais problèmes pour la population, quoi.
Oui, on est dans une impasse, hein, et au fond, comme c'est bien connu, au fond d'une impasse, il y a un mur, donc on va vers ce mur. Il faut quand même bien savoir que on a construit en France 58 réacteurs nucléaires en très peu de temps, hein, et ça a été depuis 30 ans, on nous a vraiment expliqué que c'était un exploit absolument extraordinaire réalisé par EDF, ce qui d'ailleurs, du simple point de vue industriel, n'est pas faux. Le problème, c'est que en faisant ça, on a programmé une situation inextricable pour 30 ou 35 ou 40 ans plus tard, c'est-à-dire à la période où on est maintenant, c'est-à-dire que l'ensemble de ce parc nucléaire, de ces réacteurs, arrive en fin de vie à peu près tous en même temps, puisqu'ils ont été construits à peu près pour la grande majorité en moins de 10 ans, et donc on arrive maintenant à cette situation inextricable qui avait été programmée.
Ok, on va écouter Alain Souchon avec Parachute Doré, ça nous permettra de parler de Nicolas Hulot et revenir justement sur cette situation. Vous restez en ligne, Stéphane.
Ok.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco, à moi le soleil et le la nana, la noix de coco. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi bien frisé sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure. Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller, mes pouces passe la cour, les douces, la pilule, on va se l'adorer. J'ai le parachute, chute dorée. Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentants syndicaux. Le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu, château Pétrus, encore stall en vain. Adieu, les jolies putrus dans les mystères.
Nous sommes, vous êtes toujours sur Atomic Mac, nous sommes toujours avec Stéphane Lhomme. Stéphane, vous êtes toujours là ?
Absolument.
Voilà, on va reprendre un petit peu. Alors, on a parlé donc du Premier ministre, on a parlé du ministre, enfin du président de la République, leurs positions qui ne sont pas particulièrement pour l'arrêt du nucléaire. Alors maintenant, Nicolas Hulot, cette confiance qui est donnée par pas mal d'antinucléaires sur Nicolas Hulot, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu son historique à Nicolas Hulot ? Est-ce que c'est un antinucléaire convaincu de longue date ?
Bon, alors, il reconnaît lui-même que pendant longtemps, il avait, il n'est pas du tout proche de l'environnement, puisque il est connu pour son émission Ushuaïa, mais auparavant, c'était le magazine de l'extrême, où il débarquait avec hélicoptère et compagnie dans des endroits pour faire des accélérations en moto, des choses de ce genre. Il a aussi couvert le Paris-Dakar, etc. Bon, il tente de nous faire croire que, subitement, il a pris la conscience, il est devenu vraiment la conscience de l'environnement, et donc il l'a fait connaître à des millions de gens à travers Ushuaïa. Peut-être effectivement que ça a pu servir à éveiller à l'environnement un certain nombre de personnes, mais toujours dans une réelle ambiguïté. D'abord, ces émissions ont toujours été sponsorisées par des multinationales les plus polluantes et diffusées par TF1, par exemple, qui appartient à Bouygues, qui n'est pas particulièrement un ami de l'environnement. Donc, ce gars est toujours dans une ambiguïté. Alors, il dit qu'il faut bien prendre l'argent là où il est. En gros, il ferait cracher au bassinet, comme on dit, ces multinationales polluantes pour mieux faire des actions pour la protection de l'environnement. Mais bon, c'est pas très concluant. Et d'ailleurs, par rapport à l'industrie nucléaire en particulier, il est toujours resté extrêmement ambigu. Alors il a fini par dire que, par exemple, des choses comme le nucléaire n'est pas une solution à terme, des choses de ce genre, donc un petit peu anti-nucléaire, mais sans jamais lever le petit doigt contre cette industrie. Il n'a jamais rien fait contre, il n'a jamais pris réellement position, il n'est jamais allé devant une centrale, ou etc. Donc on peut objectivement rien attendre quand on pense que le nucléaire est un vrai problème pour l'environnement, pour notre sécurité, pour notre santé, pour nos finances publiques. Eh bien, on n'a pas grand-chose à attendre de Nicolas Hulot. Il montera peut-être au créneau sur d'autres questions, la biodiversité, les émissions de CO2, etc. Mais il se battra absolument pas contre le nucléaire.
Oui, alors qu'il faudrait justement quelqu'un qui aurait un caractère fort sur le sujet, quand on a vu le président et le premier ministre, effectivement, comme on vient d'en parler. Rappelons aussi que peut-être sa fondation, qui existe toujours, est toujours financée par des, y compris par l'industrie nucléaire.
Alors effectivement, alors quand il s'était présenté à la primaire, donc en 2011, primaire pour la précédente élection présidentielle, il avait donc quitté sa fondation. Alors c'est assez amusant, ça fait d'ailleurs penser à Emmanuel Macron, hein, puisque EM, En Marche, Emmanuel Macron, et là c'est FNH, Fondation Nicolas Hulot, Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Donc quand il avait quitté une première fois sa fondation, il avait fait changer le nom, donc c'était passé de Nicolas Hulot à Nature et pour l'Homme. Là, il vient à nouveau de la quitter puisqu'il est rentré au gouvernement, donc est-ce qu'ils vont à nouveau rechanger le nom ? En plus, c'est pour des fondations, je pense que ça doit être des procédures administratives très lourdes.
Assez lourdes, oui, parce qu'il y a des financements.
Et le temps qu'il rechange le nom, peut-être qu'en fait, il sera déjà plus ministre, donc je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que effectivement, même s'il change le nom, même s'il n'est plus officiellement président de sa fondation, il est quand même directement lié avec cette fondation qui est financée toujours par ces multinationales polluantes et principalement par EDF. Et donc c'est aussi une des raisons qui font que on a fort peu de chances de le voir prendre de réelles positions, si ce n'est verbales, hein, contre l'industrie nucléaire. Effectivement, le EDF, ce n'est pas pour rien. Si EDF finance la fondation Nicolas Hulot, c'est pour être tranquille de ce côté-là.
Alors, rappelons que si on fait ce bilan, un peu, et puis la carte de visite un peu de ces trois personnes, c'est que, comme le soulignait justement le journaliste du Monde, on n'est pas du tout dans une problématique aujourd'hui de gestion de la situation. On est dans une période où il va falloir prendre des décisions. C'est pour ça qu'on est peut-être un peu dur et que vous êtes peut-être un peu dur avec Nicolas Hulot, c'est que la personne qui devra diriger et proposer, c'est une personne qui ne va pas proposer seulement quoi faire, comment utiliser l'industrie nucléaire d'aujourd'hui, mais proposer des solutions alternatives pour les 100 ans à venir. Alors, il y a une lapalissade, c'est ne pas sortir du nucléaire, c'est y rester. Donc, ce qu'on pourrait attendre de Nicolas Hulot aujourd'hui, ce serait d'avoir un vrai plan d'arrêt du nucléaire et assez rapide, et puis des investissements. Est-ce qu'il en est vraiment capable? Est-ce qu'il a déjà avancé des choses là-dessus?
Non, on a absolument pas. Il n'a jamais produit quoi que ce soit de concret, à part donc effectivement des déclarations un peu lénifiantes du genre le nucléaire n'est pas une solution à terme, mais il s'est jamais penché sur la moindre alternative. Et de toute façon, avec beaucoup d'autres, hein, je pense, je maintiens que le pouvoir n'y est absolument pas, surtout sur cette question. Hein, chez Nicolas Hulot, il est à l'Élysée, chez Monsieur Macron, Nicolas Hulot à nouveau aura sûrement les coudées franches sur la biodiversité, sur des choses de ce genre, mais certainement pas sur le nucléaire.
Quels sont le nombre de réacteurs à peu près là qui ont dépassé les 30 ans, et voire même si on accepte les chiffres d'EDF de 40 ans, qui dans les 5 ans à venir ont dépassé de fait la limite réelle pour laquelle ils avaient été construits? Sur les 58 réacteurs français.
Pas mes statistiques.
Oui, mais c'est à peu près. On n'est pas là.
Mais de toute façon, on a la quasi-totalité du parc là, qui maintenant qui a dépassé les 30 ans. Mm-hmm. Fessenheim a passé 40. Hein, c'était la mise en service en 2017. Et suivent de très très près derrière les centrales de Bugey, du Tricastin, de Gravelines, du Blayais, etc. Dans les 10 ans, bon, 10 ans, alors ça peut paraître encore long, mais sur le plan de l'énergie, c'est déjà trop tard même, on pourrait dire. Dans les 10 ans, on va avoir je parie, moi, hein, qu'on va avoir vraiment peut-être 7, 8, 10, 15, 20, peut-être réacteurs qui vont poser de très graves problèmes à EDF sur le plan de la maintenance, sur le plan de l'entretien, tout simplement parce que tout ça se dégrade de manière extrêmement rapide et que l'argent n'est pas là. EDF est en situation financière. Et on a vu que le fameux programme de grand carénage qui consisterait normalement à rénover tous ces réacteurs a commencé par une catastrophe à la centrale de Paluel où ils ont fait tomber un générateur de vapeur dans le réacteur. Réacteur qui ne redémarrera peut-être jamais. Alors c'est une drôle de façon de rénover les réacteurs. Donc voilà. Donc en fait, on est dans une sorte de déni. L'industrie nucléaire elle-même, on continue à nous parler d'investissements. Alors des EPR en Grande-Bretagne, puis des marchés peut-être en Chine, en Inde, partout. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors que, vous voyez, c'est un petit peu comme le Titanic. Hein, voilà, le bateau coule. Enfin, l'eau rentre dans le bateau. Mais tout le monde continue à dire que tout va bien, l'orchestre joue la musique, mais à un moment donné, ou alors l'autre image c'est celle de l'impasse, hein, donc il y a un mur au bout, on s'en approche et la vérité éclatera à un moment donné.
Alors pour éviter ce mur justement, bon, en gros ce qu'on pourrait demander à Nicolas Hulot aujourd'hui, et puis peut-être juger de son efficacité, puis là ça doit être des mesures rapides, ce serait de dire on arrête le grand carénage. Et puis on ferme les réacteurs qui dépassent, allez, admettons, 40 ans. Est-ce que ça vous paraît raisonnable de dire ça? En gros, Nicolas Hulot, on va te juger si tu arrêtes le grand carénage, c'est-à-dire le prolongement des centrales au-delà de 50 ans, quoi.
Oui, et on pourrait déjà dire qu'au moins le minimum dans une république théoriquement démocratique, ce serait que la discussion s'ouvre, oui. Qu'on mette sur la table devant tous les citoyens en disant, ben voilà, écoutez, on a 58 réacteurs nucléaires qui commencent à être extrêmement fatigués, on prévoit de mettre, alors au départ EDF avait dit le grand carénage 55 milliards, la Cour des comptes a dit non, attention, ça risque d'être
plus de 100 milliards,
d'autres études ont montré que ça pourrait être 200, enfin ce sont des sommes absolument absolument astronomique. Et il faudrait peut-être poser la question, et ça, EDF ne veut surtout pas que le débat ait lieu. EDF dit, ben nous voilà, on exploite des réacteurs nucléaires, c'est notre boulot, on n'a pas demandé à qui que ce soit de nous dire ce qu'on a à faire. Donc, ben voilà, on a décidé qu'on allait rénover, qu'on allait prendre... c'est notre argent après tout, mais bon, c'est pas vraiment l'argent d'EDF, ni des dirigeants d'EDF, c'est l'argent des citoyens qui paient leurs factures. Et donc, c'est finalement, en tant qu'abonné, on est en quelque sorte actionnaire, si on peut dire, d'EDF. On devrait avoir notre mot à dire, de même que les gens qui ne sont plus à EDF, qui ont pris un autre fournisseur, mais de toute façon... C'est un système global, il y a aussi le réseau de transport d'électricité qui appartient à EDF, Enedis, le distributeur, donc même les gens qui ont changé de fournisseur sont otages en quelque sorte d'EDF, et puis de toute façon en tant que citoyens, nous avons tous mis énormément d'argent, même contre notre propre volonté, dans ce système électrique nucléarisé, et donc effectivement la moindre des choses serait qu'on discute, qu'on dise alors on remet 50, 100, 200 milliards dans le nucléaire ou on fait autre chose.
Stéphane, on va être forcé d'arrêter notre émission, mais par contre, je retiens un petit peu l'idée qu'on reviendra avec vous pour justement discuter de ce débat sur un peu ce service public, etc. Parce qu'effectivement, là, on voit que beaucoup de choses ont disparu et nous sommes très, en tout cas, attachés à une notion de service public, mais avec des débats, on vous proposera peut-être un débat là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir éclairé sur nos nouveaux dirigeants. Et puis, maintenant, c'est Jeanne qui va nous faire son intox des intox. Merci beaucoup Stéphane encore.
Oui, bonjour. Je vais faire l'intox des intox sur l'accord liant l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'OMS, donc, c'est l'institution spécialisée des Nations unies pour la santé. Elle a été fondée en avril 1948 et elle a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. L'AIEA a été créée, elle, en 1957 par les Nations Unies pour encourager et faciliter dans le monde entier le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques, mais aussi la recherche dans ce domaine. Un accord a été conclu en 1959 entre l'AIEA et l'OMS.
Alors, que contient cet accord ?
Alors, l'article 1, l'AIEA et l'OMS conviennent qu'elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. Article 2, en particulier l'OMS reconnaît qu'il appartient principalement à l'AIEA d'encourager, d'aider, de coordonner dans le monde entier les recherches concernant l'énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de l'OMS de s'attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche. Article 3, les deux parties règlent les questions liées au nucléaire d'un commun accord. La première interrogation porte sur l'accord lui-même. Pourquoi établir un accord qui dit tout et son contraire dans l'article 2, puisqu'on nous dit d'abord que c'est l'AIEA, mais que ça pourrait être l'OMS ? Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de laisser à l'OMS toutes les recherches concernant la santé, y compris dans le domaine nucléaire. La deuxième concerne la prédominance de l'AIEA. Comment une organisation en charge du développement de l'énergie nucléaire peut-elle encourager, relayer les recherches qui mettraient en évidence les effets des radiations ?
Alors, que croyez-vous qu'il arriva ? On ne dit pas arriva, là, il arriva.
L'OMS ne dispose pas des moyens d'étude sur les impacts de la radioactivité, ce qui l'oblige à reprendre à son compte les données apportées par l'AIEA. L'OMS développe la scandaleuse pseudo-science de la radiophobie. Souriez, vous serez moins sensible aux effets des radiations. La référence au modèle Hiroshima, alors que le modèle Hiroshima est inapplicable aux accidents nucléaires. Et pour finir, le déni des effets de la radiocontamination à faible dose, alors que des milliers d'études fournissent des preuves d'effets similaires sanitaires graves. Un exemple de cet accord ? L'AIEA a refusé la publication des actes des conférences de 1995 à Genève sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. C'est pourquoi depuis le 26 avril 2007, des militants d'Independent Wu se relayaient quotidiennement devant le siège de l'OMS à Genève pour lui demander de dire la vérité sur les effets sanitaires des rayonnements ionisants, notamment pour les victimes des retombées des essais nucléaires et des catastrophes nucléaires. Le 26 avril 2007, au bout de 10 ans de protestations silencieuses, 2017, les vigies constatant que le déni officiel reste entier, en dépit des témoignages des victimes et des publications indépendantes, a décidé de poursuivre son combat pour la vérité et la santé sous d'autres formes. À l'occasion de cette dernière journée, une grande vigie a été organisée en présence d'une centaine de personnes. Une stèle a été inaugurée et la version anglaise du livre de Vladimir Tchektov, The Crime of Tchernobyl, a été remise à l'OMS à l'attention de sa directrice, Margaret Chan. On peut aussi, en liaison avec ce qu'a dit Stéphane Lhomme, dire que notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été de 2008 à 2013 présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et membre du commissariat à l'énergie atomique de 2009 à 2015.
Quand on disait que les nucléaristes étaient partout, ils le sont. L'agenda, Céline.
Bonjour à tous. Je tiens à demander aux auditeurs de m'excuser pour cette voix toute cassée. Je suis un peu malade. L'agenda du mois de juin. Donc, pour tout d'abord, donc, samedi 10 juin se tiendra à Lyon l'Assemblée générale d'Enercoop Rhône-Alpes. Donc, cette assemblée est bien évidemment tout d'abord ouverte je ne voulais pas dire actionnaire, mais l'équivalent dans le coopératif.
On va dire adhérent.
De la société Enercoop Rhône-Alpes. Mais bien évidemment, toutes les personnes qui s'intéressent pourraient trouver des informations sur le site d'Enercoop Rhône-Alpes. Ce même week-end, donc samedi 10 et dimanche 11 juin, se tiendra à Paris une rencontre des groupes du collectif ADN, donc Arrêt du nucléaire, à Paris. Donc là encore, si ça vous intéresse de participer à ce rassemblement des collectifs à l'échelle nationale, donc pour construire, reconstruire et faire progresser la lutte anti-nucléaire, vous pouvez vous rapprocher donc de Stop Nucléaire en Dromardèche. Vous êtes les bienvenus. Pour ce qui concerne encore Stop Nucléaire, donc notre réunion mensuelle en ce mois de juin se tiendra le lundi 26 juin à 18h30 à la Frapna, avenue de Verdun à Valence. Enfin, comme tous les samedis matins, vous pouvez retrouver les obstinés de la place Porte-Neuve à 11h. Voilà, vous pourrez échanger, discuter avec eux, prendre des informations.
Rappelons qu'eux, ils ne sont pas présents que pour les élections, mais ils sont tout.
C'est ça, ils ne tractent pas.
Et je vois Christine qui applaudit.
Voilà, et enfin, donc, une petite annonce pour le mois de juillet. Les 1er et 2 juillet se tiendra la Dromoise du nucléaire, donc, qui est une grande balade à vélo sur la Via Rhôna, en descendant donc, de Romans au Tricastin. Donc, départ le 1er juillet de Romans avec une pause le soir au Pouzin, et ensuite, deuxième étape le lendemain, donc, du Pouzin au Tricastin. Donc, ça, c'est une manifestation, un événement organisé par la Frapna Drôme. Donc voilà, vous pourrez les rencontrer tout au long du parcours ou éventuellement carrément participer à la descente à vélo avec eux, auquel cas contactez la Frapna pour vous signaler. Voilà.
Eh bien, merci pour ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur notre répondeur le 08 05 69 67 58. L'appel est gratuit. Étaient présents aujourd'hui Céline, Georges, Jeanne, Dominique et Jean-Pierre à la technique et Christine qui est dans le fond du couloir là qui nous regarde. Notre prochaine émission, ce sera début juillet, le premier lundi de juillet, et ce sera une émission exceptionnelle avec des lectures de romans centrés sur le nucléaire. Des équipes d'artistes vont nous aider à faire cette émission, donc on vous appelle à venir nous écouter largement, à nous donner des conseils également de livres à lire, et puis nous vous quittons sur 33 de Smashing Pumpkins, j'espère que je prononce bien, et c'est parti, on vous souhaite une bonne journée de congé encore aujourd'hui. Yeah.